Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Marc Chagall, L'Ange Saltimbanque, 1887-1985. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui peignait des vaches oranges et des amoureux ailés. Celui qui a réinventé le plafond de l'opéra et qui a illustré Gogol, les fables de La Fontaine ou la Bible. De celui qui était un artiste errant, entre la Russie devenue communiste, le shtetl de son enfance, Paris, Berlin, l'Europe en guerre, New York ou Saint-Paul-de-Vence. C'est l'histoire d'un peintre de l'onirisme et de l'intimité, du sentiment religieux et de la couleur. Sur les images en noir et blanc, il a la bouche mince, le nez d'un oiseau, les cheveux noirs et bouclés, les yeux grands ouverts et la tête penchée posée sur sa main. On le voit vieillir, les rides apparaissent, ses cheveux ont blanchi, et il ne porte plus ses chapeaux d'avant-guerre et ses chemises bohèmes un peu bouffantes. Mais son regard reste le même, ses sourcils toujours levés, et ses yeux écarquillés, dans un émerveillement permanent qui pourrait être un étonnement douloureux. On peut voir en ce moment à la Philharmonie de Paris ces images qui représentent ce monde juif désormais disparu, village aux maisons de bois, violonistes, artistes de cirque, rabbins en prière, théâtre yiddish, et qui disent aussi la place de la musique dans son œuvre. Marc Chagall, L'Ange Saltimbanque, un documentaire de Christine Le Cerf et Christine Digère.
Il a habité parce qu'il a les tombeaux, mais ça, c'est fini. C'est enlevé, c'est détruit. Comme je vous ai dit, là, dans ma ville, il est resté un morceau de ma maison natale. Deux morceaux même. M'a mis des photos. Ça, j'aimerais voir. C'est moi, je ne peux pas pleurer, vous savez. Ça, je ne peux plus. Je ne peux plus voir mes sœurs, voir la maison. Je ne peux plus pleurer.
Marc Chagall, L'Ange Saltimbanque. Est-ce que vous êtes retourné, Meret Mayer, à Vitebsk? Ça a été important pour vous de revenir marcher dans les rues où a grandi Marc Chagall?
C'était même très très important de revenir sur les pas de notre grand-père et de notre grand-mère, alors que les traces n'existent plus. Il n'y a pratiquement rien. Il n'y a aucun bout de bois qui puisse rappeler quoi que ce soit. Néanmoins, dans cette ancienne partie de Vitebsk, moi ça m'a incroyablement ému de voir les palissades, les couleurs des prairies, une fraîcheur incroyable de l'herbe, des rapports entre toutes les fleurs sauvages qu'on voit dans les peintures, et donc on comprend pour quelles raisons il avait ce sens aussi pour tout ce qui devient léger, comme si les fleurs s'envolaient dans le ciel ou que le ciel était habité par tout ce qui venait de la terre. Les parfums, les senteurs de ce bois vous rappellent. On a l'impression que les narines se rapprochent d'une ambiance de l'espace qu'on retrouve dans des peintures. Oui, c'est vrai que de se retrouver à Vitebsk, alors que tout est différent, mais tout est quand même reconnaissable et identifiable. De telle manière qu'on a l'impression d'être chez soi. On respire quelque chose qui fait partie d'un air familial et familier.
Ozer Warshavsky, qui était un très très grand poète yiddish, qui est mort à Auschwitz en 1944. Ozer Warshavsky a écrit un très beau texte sur Chagall qui s'appelle « Le shtetl et le magicien ». Et ce livre se termine par cette phrase « Et chacun de nous s'élance vers les lointains, mais une part de nous-mêmes reste pour toujours liée à l'origine ».
Marc Chagall est né à Vitebsk en juillet 1887. Il a reçu un nom juif, donc il s'appelait Moïse Zakharovitch Chagall.
Claire Le Foll.
Vitebsk était une ville d'environ 70 000 habitants, dont la population était à moitié juive. C'était une ville qui était donc une capitale régionale, donc un centre administratif de l'Empire russe. Donc Vitebsk était reliée directement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie, donc c'était un lieu de transit. Et c'était une ville assez développée culturellement, où il y avait un théâtre, des musées, beaucoup de librairies, beaucoup de bibliothèques, des beaux immeubles d'architecture classique, en briques, en pierre, avec encore quelques quartiers de maisons en bois. Une ville assez charmante, traversée par la Dvina, donc un joli fleuve, qui a inspiré beaucoup d'artistes, en particulier le grand peintre russe Répine. Chagall dit que c'était une ville très ennuyeuse, petite, provinciale. Alexandre Benois dit que c'était un trou à juifs. On comprend pourquoi, étant donné le nombre de juifs, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était quand même une petite capitale provinciale.
Avez-vous vu quelquefois, sur les tableaux des Florentins, un de ces personnages à la barbe jamais tondue, aux yeux bruns et cendreux à la fois, d'un teint d'ocre cuite et couvert de plis et de rides, c'est mon père. Les vêtements de mon père luisaient parfois de la saumure des harengs. Seule sa figure, tantôt jaune, tantôt claire, adressait de temps en temps un faible sourire. Toujours fatigué, soucieux, il n'y avait que ses yeux qui donnaient un reflet doux d'un bleu grisâtre. Dans ses vêtements graissés et salis par le travail, aux larges poches, d'où sortait un mouchoir d'un rouge terne, il rentrait à la maison, haut et maigre, le soir entrait avec lui.
Moi, je n'ai rien appris dans ma vie, sauf quand j'ai marié avec ma femme. Vous apprenez de naissance, c'est en vous, avec votre sang. Je n'ai pas été à l'université pour apprendre quelque chose. J'étais un mauvais élève. Je n'ai rien appris. On apprend chez des parents, mon père, ma mère, oui, ça c'était l'école. Quand j'ai vu mon papa, mon père travaille durement, il boit du thé, il fait des cigarettes, fatigué. Et quand j'ai vu ma mère faire la cuisine pour les 8 enfants, ça c'était l'école pour moi. Puis j'ai sorti, j'ai vu le ciel avec des toiles et des petites filles si gentilles que je ne touchais pas. Ça, c'était l'école. Et tous mes tableaux sont là. Pas d'académie. Comment dessiner? Je préfère plutôt mal, très mal dessiner. Mal dessiner, ça c'est bien.
Il allait chez son oncle et chez ses grands-parents à Liozno. Et il s'en est inspiré dans ses tableaux, en particulier dans ses tableaux de violoniste. On sait que son oncle jouait beaucoup du violon. Donc c'est cette approche un peu chassidique du judaïsme, un judaïsme où les émotions jouent un rôle très important, où on cherche à communier avec Dieu par des formes d'extase qui passaient entre autres par la musique ou par la danse.
Le violon, c'est l'instrument phare de l'orchestre klezmer, donc il est évidemment important.
Bruno Godichon.
Et puis, il permet, comme le violoncelle d'ailleurs, à Chagall, des hybridations magnifiques. On voit par exemple dans les costumes pour le ballet à l'écho, la substitution du violon au bras du personnage. Le violoniste n'a même plus de bras pour tenir le violon, parce que son bras est le violon. Et le violoncelle devient le corps de beaucoup des personnages, ce qui fait que Aragon, dans un texte, appelle Chagall l'homme violoncelle. Le violon, c'est aussi un instrument qu'on transporte facilement. C'est aussi un instrument assez universel, moins typé par exemple que le chauffard, qui est aussi un instrument qu'on voit beaucoup chez Chagall, qui a cette question d'universalité et en même temps cette question d'appartenance. C'est-à-dire, c'est quand même l'instrument de la communauté juive et c'est l'instrument de la communauté juive en exil.
Donc les grands-parents lui ont donné ce sentiment d'appartenance à un monde rural, juif, chrétien. On voit beaucoup de paysans dans les tableaux de Chagall. On voit des vaches, des veaux, des paysannes, des charrettes. Clairement, tout ça vient de Liozno et a joué un rôle très important.
Si Chagall était un animal, il serait certainement d'une patte un coq, avec une tête de chèvre, une queue de poisson, avec une horloge en plus d'un juif errant.
Dans le monde polyphonique et multiforme de Chagall, on a une multitude de représentations d'autoportraits. Donc, par exemple, on peut tout à fait supposer que Chagall se représente à travers certains animaux. Donc à travers le coq qui lui aussi émet du son, qui est musicien lui-même, à travers la chèvre, qui est un élément farceur et en même temps qui pose son regard tout à fait critique sur le monde, et également par des figures d'animaux musiciens ou d'animaux danseurs. Tous ces éléments, en fait, composent le monde métaphorique de Chagall, qui relève aussi de cette tradition de la religion hassidique, qui est en fait la fusion de tous les hommes et de tous les animaux dans une humanité complète et globale.
Le problème, c'est que si Chagall est un animal, il est un zoo ou une ferme à lui tout seul. Il est l'âne, il est la chèvre, il est le coq, il est l'oiseau. Pour lui, l'être humain n'est qu'une des figures de la création divine et tous ces animaux sont ceux que lui-même s'est choisi comme ses avatars.
Chagall a traversé le pont qui séparait le quartier juif de Vitebsk et la ville administrative, la ville un peu plus russe, car une fois qu'il a terminé ses études traditionnelles au Cheder, donc à l'âge de 13 ans, au lieu de devenir un étudiant talmudique, sa mère l'a fait entrer à l'école russe. Ce qui était un défi à l'époque parce que les autorités russes avaient imposé un numerus clausus aux juifs, donc les juifs n'avaient pas le droit d'étudier dans les écoles russes et dans les universités russes. Donc elle a soudoyé le directeur de l'école pour qu'il entre à l'école russe. Ça a été une expérience pas très satisfaisante pour lui, il s'est beaucoup ennuyé à l'école, mais en tout cas ça lui a donné une bonne connaissance du russe. Ça lui a aussi permis de découvrir le dessin, parce que c'est à l'école qu'il a vu un autre élève dessiner pendant les cours et que ça lui a ouvert un horizon. Soudain, il s'est dit, tiens, on peut dessiner.
Par hasard, j'ai vu quelqu'un, un élève, a montré un dessin, quelque chose noir et blanc. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Parce que ça, j'ai senti, mais combien? J'ai compris que je peux barbouiller.
Parce qu'évidemment, en milieu juif, ce n'était pas une activité traditionnelle, ce n'était pas une activité qui était reconnue et qui avait une légitimité sociale. L'art avait une place seulement dans les synagogues. L'art rituel était reconnu, mais pas l'art moderne, enfin, tel qu'on peut le comprendre maintenant. Je pense que l'école russe lui a apporté donc une impulsion pour se lancer dans le monde non-juif. Et il lui a aussi permis de rencontrer des amis qui ensuite l'aideront à franchir le pas.
Chagall est un homme qui marche. L'idée de marche est contenue dans son nom, puisque Chagall est l'imparfait du verbe marcher en russe.
Nathalie Azan-Brunet.
Et d'emblée, il va vivre dans une sorte d'écartèlement entre le pays d'origine, la Russie, Vitebsk, le monde juif, et les contrées qu'il veut gagner. Et toute sa vie peut se résumer par l'injonction faite par Dieu à Abraham, « Lech lecha, pars, va vers toi ».
Tu t'avances doucement vers moi, tu souris de mon sourire, voici mon âme, voici mes tableaux, ma naissance.
Meret Maier, est-ce qu'on peut dire que Marc Chagall était entouré de femmes ?
Oui, notre grand-père était entouré de beaucoup de femmes. Déjà sa mère, qui était une femme très importante, même si elle n'était pas d'accord avec son souhait de devenir artiste et qu'elle avait exprimé le souhait qu'il fasse un travail utile. Elle a quand même écouté, elle l'a accompagné là où il souhaitait. Donc vraiment, c'était une femme incroyablement forte. Si on suit les descriptions que Chagall en fait dans l'autobiographie « Ma vie », qui est plutôt un document romancé, plus qu'une autobiographie. Et puis, il était entouré de plusieurs sœurs, un frère et 7 sœurs. Donc un grand nombre de femmes. Il était jamais dans la certitude, où il n'avait jamais cette sensation d'être autre que féminin. Il avait beaucoup d'éléments en lui qui étaient beaucoup plus sensibles. Il balbutiait, déjà de corpulence frêle, un visage d'ange, qui n'était pas du tout comme on peut les voir dans les gravures de Gogol, des visages féroces, très puissants, très virils. Il n'appartient pas du tout à ce monde, pas du tout. Donc il se sent voisin de tout ce qui peut être féminin, de toutes les voix féminines. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé comme un homme toutes les femmes qu'il a eu le privilège d'aimer. Mais il a certainement le don surnaturel de pouvoir apprivoiser tout ce qui est d'une autre sphère.
Alors, Béla.
Notre grand-mère était une femme d'une qualité exceptionnelle, qu'il a rencontrée, et à partir de cette rencontre, tout a changé pour lui. Ils étaient amenés à se rencontrer, si on croit à la destinée des êtres. C'est elle qui a vraiment cru en lui, et c'est grâce à cet amour doublé de son intelligence et de sa culture qui l'a conduit à s'inscrire dans le paysage russe à travers la littérature, le théâtre, aussi à travers l'écriture, parce que c'est elle, avec toutes ses connaissances linguistiques, parce qu'elle parlait couramment l'allemand, elle parlait couramment le français avant de venir en France déjà. Donc c'est elle qui écrivait toutes les correspondances, qui établissait les contacts avec les collectionneurs, avec tout être. Donc c'est elle qui était l'interlocuteur, qui a fait de sorte qu'il puisse devenir l'artiste qu'il est devenu. Et qu'il puisse partir aussi au bon moment, quand il fallait. C'est grâce à elle.
Ma femme, c'est quelque chose. La logique, la stabilité, les charmes, tout ça que je ne possède pas. Et puis quand cette femme, quand elle dit, c'est rare, je la montre mes tableaux, je lui demande comment tu trouves, et s'il dit le mot oui, c'est pas mal, je suis vraiment très heureux. C'est tout.
Regardez les œuvres, c'est une icône. Béla au col blanc, un tableau tout tout à fait emblématique qui se trouve dans la collection du Centre Georges Pompidou de 1917, ce n'est pas une muse, c'est une icône. Et c'est une icône qui sait. C'est elle qui est consciente et c'est elle qui protège. Mais ce n'est pas un couple fusionnel qui se perd et qui s'abandonne, pas du tout. Non, quand on pense aux amoureux en verre, un tableau qui est en dépôt au Musée national Marc Chagall à Nice, tableau de 1914, Chagall a les yeux fermés, elle non. Donc, ce n'est pas la muse qui est en train de se perdre comme si elle était en déambulation dans un espace comme un papillon qui ne sait pas où atterrir, pas du tout. Elle est tout à fait consciente, c'est toujours elle qui sait. Et donc, comme elle sait aussi jusqu'où il faut aller.
Ah oui, quand vous sentez l'amour, vous savez, c'est très, très important. Ah oui. L'amour, je dis tout le temps, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Si je pouvais dire ces mots et si les jeunes m'écoutent, je les supplierais, il n'y a que l'amour.
En arrivant déjà à Pétersbourg et à Moscou dans les années 10,
Mikhaïl Roudy,
il est en contact avec tous les mouvements de son temps. Et c'est un petit peu caractéristique de Chagall toute sa vie. Il était très ouvert vers l'art de son temps, mais il s'appropriait à sa façon et jamais il voulait appartenir à un mouvement. Et donc, dans les années 10, il était dans la capitale, en Russie. Il entendait la musique qui était de cette époque-là. On peut voir dans sa peinture qu'elle devient beaucoup plus proche des mouvements futuristes ou des mouvements suprématistes. Les lignes sont plus droite, l'utilisation des cercles, des cubes. Et on peut entendre la musique des compositeurs de son temps, par exemple. On peut entendre Prokofiev, Shostakovich, avec lesquels il a beaucoup de choses en commun.
À Saint-Pétersbourg, il y a l'Ermitage.
À l'Ermitage, il trouve, donc il découvre cette peinture religieuse, ces icônes russes, et il découvre les peintures de l'avant-garde russe, donc, et de l'avant-garde occidentale, parce que tous ces milieux avant-gardistes, évidemment, faisaient circuler cet art cubiste, futuriste, qui venait de l'Occident, et il s'est beaucoup intéressé à ça. C'était aussi une période où il était en contact avec la pensée des poètes avant-gardistes, les poètes futuristes, qui avaient de grandes discussions sur l'abstraction, quel type d'art doit-on faire. Donc je pense que c'est une période où il s'est beaucoup posé de questions, des questionnements vraiment purement intellectuels, qu'il a tendance à effacer hein, de son autobiographie et de l'image qu'il veut créer de lui-même, mais je pense que ça l'a beaucoup nourri. Donc Chagall, à cette époque-là, avant de partir à Paris, était déjà un artiste qui savait dessiner, qui savait peindre, qui se situait dans une scène artistique vibrante et qui savait ce dont il avait besoin, qui savait ce qui lui manquait.
À Paris, paradoxalement, il a continué son voyage artistique parce que l'événement principal ces années parisiennes, c'était le début des ballets russes. Entre autres, Chagall a assisté autant que spectateur, il a assisté à la première, célébrissime maintenant, mais à l'époque très scandaleuse, de Le Sacre du Printemps en 1913. Il était dans la salle. En fait, il rencontrait souvent Diaghilev. Et il écrit avec l'humour dans son autobiographie, qu'il a écrit à 35 ans, qui est aussi un chef-d'œuvre de style. Il dit que chaque fois que je rencontre Diaghilev, j'ai toujours l'impression sur son visage, quand il me regarde, il doit penser, est-ce que je dois inviter Chagall ou pas? Et finalement, il n'a jamais invité Diaghilev. Mais l'ensemble des œuvres scéniques de Chagall m'a fait penser que Chagall lui-même, il est le ballet russe tout entier. À Paris, il y a amitié avec beaucoup d'artistes, poètes et musiciens. Et c'est à Paris qu'il a montré ce tableau à Guillaume Apollinaire, qui, le voyant, les appelait surnaturels.
Si l'art n'est pas seulement réel, s'il n'a pas une certaine irréalité, il n'est pas réel. Quand on m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai mis les morts dans la rue et sur le toit, il y a un musicien, et la bouteille est renversée, la tête coupée, c'est parce que j'ai senti ça. On a besoin, je ne suis pas capable d'expliquer, je ne suis pas un théoricien.
Chagall écrit dans sa biographie que Paris c'était, et la France, c'était d'abord question de lumière pour lui. Il parle de Van Gogh en disant qu'il regardait Van Gogh quand il était aux Pays-Bas. Ses couleurs étaient ternes. Quand il est arrivé en France, sa palette est devenue beaucoup plus colorée. De même pour lui, Chagall, ça continue à nourrir son inspiration, son imaginaire visuel avec les couleurs de France. Donc plus tard, quand il va déménager dans le sud de la France, c'était clairement un choix artistique.
Vous savez, c'est formidable. Je suis passé de Vitebsk, la Russie, 4 jours a duré le voyage. Et Gare du Nord, j'étais ébloui par tous ces cafés et tous ces gens qui sont assis, une luminosité que les impressionnistes ont montré ça. Et puis les premières, les artistes avant 14, ont montré ces luminosités. Delaunay, Léger, Monet, premier éblouissement de ma vie, ça il faut dire. Puis j'ai senti que c'est fini. Je dois vivre et mourir en France.
Ces tableaux, l'autoportrait aux 7 doigts, qui est un tableau de 1912-1913, il se représente devant son chevalet et il est entre 2 inscriptions en yiddish, Russie et Paris, qui sont de part et d'autre de sa tête et qui flottent comme dans un songe au-dessus de son chevalet. Et ce sont des images qui viennent hanter de nombreux autoportraits, notamment le peintre à la tête renversée, où la tête de Chagall est toujours d'une certaine manière dissociée de son corps. Et ce sont vraiment ces façons de dire le dilemme qui vit entre universel et particulier. Et dans l'autoportrait aux 7 doigts, il injecte une locution yiddish. Faire quelque chose avec 7 doigts, c'est le faire avec ses 7 sens, c'est le faire avec dédication. Donc, il se montre devant son chevalet totalement dédié à sa peinture, mais entre 2 univers. Les 2 univers, celui qui vient de quitter et celui qui l'aborde. Et cette tension, elle est présente tout au long de son œuvre.
Claire Le Foll, où était Chagall pendant la guerre et la révolution de 1917?
Chagall, pendant la guerre, était en Russie, entre Vitebsk et Petrograd. En fait, il aurait voulu repartir à Paris tout de suite après son retour en Russie en 1914. Il était juste revenu pour épouser Bella. Mais manque de chance, la guerre a éclaté. Il a été obligé de rester. Il a dû travailler dans un bureau militaire à Petrograd. Et pendant ces années, il a continué à devenir de plus en plus important dans l'avant-garde russe. C'est devenu l'un des plus grands artistes de l'époque. Donc au moment où les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre 1917, il devient l'un des artistes pressentis pour prendre le poste de commissaire aux Beaux-Arts. Il refuse, d'après son autobiographie, pour des raisons personnelles, parce que Bella ne voulait pas. Mais il accepte quand même de devenir commissaire aux Beaux-Arts pour la région de Vitebsk et d'y créer une école d'art révolutionnaire, enfin, ou d'art d'avant-garde. Et il y croit vraiment. Il pense vraiment qu'il peut sortir sa ville natale de son provincialisme et qu'il peut apporter l'art, la révolution artistique à son peuple vitebskois. Donc il met énormément d'énergie d'abord dans la préparation de la célébration de le premier anniversaire de la Révolution, en octobre-novembre 1918. Il fait un tas d'esquisses qui donnent à reproduire aux peintres en bâtiment de la ville. Donc il tapisse les murs de la ville de vaches vertes, tête en bas, qui laissent tous les commissaires politiques et tous les dirigeants pantois et très sceptiques. Et puis ensuite, il invite ses amis de Saint-Pétersbourg à venir participer à l'école. Donc l'école, pendant la première année, devient vraiment un lieu extraordinaire où il fait meilleur vivre qu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg parce que les restrictions y sont moins grandes. Donc Vitebsk devient un mini-centre artistique de l'avant-garde russe et attire des noms comme Ivan Pouni, Lissitsky, puis Malevitch, qui accepte de venir. Entre autres parce qu'il y voit l'opportunité d'y publier ses écrits philosophiques et d'y réaliser un petit peu son rêve, son utopie de suprématisme, donc d'y créer lui-même son école suprématiste. Donc Chagall vraiment transforme Vitebsk en un lieu fantastique d'avant-gardisme et d'innovation, de créativité, et espère vraiment pouvoir transformer les prolétaires, les paysans en connaisseurs de l'art d'avant-garde. Après l'élan du début, Chagall est confronté à une sorte de déception qui vient du fait que Malevitch s'installe dans l'école, crée le groupe Unovis, groupe très abstractionniste, très radical dans ses positions, et crée un véritable cercle autour de lui. Il devient une espèce de gourou de toute cette jeunesse que Chagall aurait voulu amener à lui. Donc l'atelier de Chagall est délaissé, se vide petit à petit. Et Chagall perd l'entrain, perd la foi et petit à petit renonce, finalement démissionne en juin 1920 et retourne à Moscou. Donc pour lui, cette expérience révolutionnaire a été de très courte durée. Un épisode très enthousiasmant auquel il s'est donné corps et âme, d'une manière très surprenante. Hein, imaginez Chagall en habit de bolchevique et de commissaire, mais qui a été très très décevante pour lui et qui lui a donné beaucoup d'amertume par rapport justement à cette avant-garde russe, par rapport à la Russie, par rapport à sa ville natale aussi. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas eu envie d'y revenir, c'est aussi cette expérience de l'école d'art de Vitebsk qui a été un échec pour lui.
Il doit quitter définitivement la Russie en 1922, qui quitte Vitebsk, d'où il a été chassé par les suprématistes et Malevitch et Lissitsky. Il se retrouve à Moscou et la première entreprise qui va d'une certaine manière réparer ses blessures, c'est de créer l'espace et les décors du théâtre yiddish. Il y a toujours chez Chagall un retour à la langue d'origine pour faire face. Et il dit ces phrases magnifiques. Il dit « Quelque chose devait éclater en moi. Je devais faire les décors du théâtre yiddish. » Et pendant 40 jours, il va s'enfermer dans ses locaux, les investir totalement, aller jusqu'à peindre les visages et les corps des acteurs. Et au même moment, il va rédiger une sorte de testament, ma vie. Il a 35 ans, pourquoi rédiger son autobiographie, sinon pour fixer ses premières années de sa création. Ma vie, c'est une succession de taches de couleurs. Et puis, il va partir pour Berlin. Il va là-bas découvrir la gravure grâce à Cassirer qui veut éditer Ma vie. Et tout de suite après, il y a l'appel de Paris, Ambroise Vollard qui lui demande de venir illustrer des livres. Et Chagall va commencer par Les âmes mortes de Gogol, qui est une œuvre d'exil, et qui vont signer son adieu définitif à la Russie. Et puis, à Paris, il va accepter l'offre d'illustration des fables de La Fontaine, ce qui pour lui signait une entrée dans le patrimoine français. Et puis, tout de suite après, il va s'attaquer à l'illustration de la Bible, toujours à la demande d'Ambroise Vollard. Ce recours au livre manifeste un instinct de survie par lequel il fait face à l'exil.
Chez Chagall, le cirque, c'est la paraphrase idéale du monde. Tout est sans dessus-dessous. Et ça, c'est très lié notamment à toutes ces contes d'enfance avec ces histoires à tiroirs, ces personnages en apesanteur. Et puis en même temps, le cirque, c'est ce voyage sans fin, c'est l'image de l'exil permanent. Et là, ça renvoie à la vie de Chagall qui, à partir du moment où il quitte la Russie, notamment pour la deuxième fois, vit une vie d'exilé permanent. Et les figures du cirque, ce sont celles qui sont dans une roulotte tous les jours, qui bougent, dans lequel il arrive à mettre des poissons qui volent entre deux gymnastes ou un âne qui est lui-même sous une ravissante écuyère. Voilà. Dans un tableau, par exemple, comme Les gens du voyage, il dit bien que l'univers du cirque, c'est moins la représentation que la vie globale des saltimbanques qui l'importe. Il y a l'audacieux, le poétique, et le saltimbanque est évidemment une figure d'artiste, comme l'ange en est un, comme le coq en est un. Il y a sans arrêt ces avatars de l'artiste, et alors la piste aux étoiles en est pleine.
Chagall était très fasciné par Charlie Chaplin. Et de fait, dans cette période où il se réinstalle à Paris, il avance d'une certaine manière camouflé. On a le sentiment qu'il est en train de miniaturiser son monde, il joue beaucoup avec les rapports d'échelle. En fait, il sait se faire tout petit quand les temps sont troublés. Et c'est vrai que c'est par là qu'on comprend mieux le lien qui l'unit à Charlie Chaplin. Il disait... Chaplin cherche à faire au film ce que j'essaye de faire en peinture. C'est sans doute le seul artiste aujourd'hui avec lequel je pourrais m'entendre sans avoir à dire un seul mot.
Cette image qu'on a de la peinture de Chagall, ce monde un peu féerique, l'aspect a toujours fait croire que Chagall fait une peinture du bonheur. En fait, la peinture de Chagall n'est pas une peinture, à mon sens, du bonheur, même si il peut peindre le bonheur conjugal, amoureux avec Bella, c'est toujours une peinture de l'inquiétude. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a des certitudes, c'est vraiment un témoin engagé. Il sait en permanence que tout est fragile. Et quand il présente des saltimbanques qui volent dans l'air, il y a effectivement quelque chose d'assez décoratif dans cette image du cirque. Mais en même temps, ce sont quand même des personnages qui sont toujours à la limite de la chute. Il faut bien voir ce côté instable de la peinture de Chagall, quand même une expression permanente de l'inquiétude et de la fragilité.
Juste au moment de ma naissance, aux environs de Vitebsk, dans une petite maisonnette, près de la chaussée, derrière une prison, un grand incendie éclata. La ville était en feu, le quartier des pauvres juifs. On a transporté le lit et le matelas, la mère et le bébé à ses pieds, dans un lieu sûr, à l'autre bout de la ville. Mais avant tout, je suis mort-née. Je n'ai pas voulu vivre. Imaginez une bulle blanche qui ne veut pas vivre, comme si elle s'était bourrée de tableaux de Chagall. On l'a piquée avec des épingles, on l'a plongée dans un seau d'eau. Enfin, il rend un faible piaulement. Pour l'essentiel, je suis mort-née. Le premier tableau que Chagall considère comme une œuvre aboutie s'appelle La Mort. Et c'est la mise en scène d'un mort dans une ruelle de la petite ville, entourée de bougies. Et ce tableau signe aussi la première apparition de la figure du violoniste sur le toit, la figure de l'artiste au-dessus de la tragédie de la vie. Et en yiddish, une rue vide se dit une rue morte, à Teutegasse. Donc Chagall a peint une rue avec un mort. Et l'image de l'artiste sur le toit dérive aussi d'une expression yiddish, tu es fou, descends du toit. C'est l'image de l'artiste qui est perché, qui est dans les airs.
Dans les années 20 et les années 30, Chagall vit à Paris. Et dans la peinture de Chagall, de ces années-là, on retrouve ces sonorités de plus sereines, plus apaisées, joyeuses. Les couleurs sont plus éclatantes. Apparaissent ces bouquets de fleurs qui, véritablement, sont des symboles de bonheur. Mais tout ça change assez brutalement avec l'avènement de la Deuxième Guerre et des horreurs qu'elle apporte. La peinture de Chagall s'assombrit, les harmonies, c'est déjà plus de dissonance, c'est un véritable cri. C'est les accords déchirants. C'est plus survivant de Varsovie de Schoenberg que Daphnis et Chloé de Ravel. Ça devient véritablement un cri de douleur de tout un peuple. Et les tableaux comme Crucifix Blanche, ils le ressentent comme une douleur universelle.
Mon peuple, mon pauvre peuple, tu es sans larmes. Ni la nuée ni l'étoile ne nous guident plus. Il est mort, notre Moïse. Il s'enfonce dans les sables. Il a donné, repris la terre promise. C'est sous le signe de Moïse, du silence des prophètes, que se conclut « Ma ville lointaine », qui est le premier poème que Chagall dit avoir écrit en yiddish. Et Chagall va créer une série de gouaches en 1931, dont une où l'on voit Moïse comme un chef d'orchestre qui va organiser la traversée de la mer Rouge en brandissant une baguette. Il y a un ange, l'ange de la résurrection de Raphaël, qui montre au peuple juif la direction de la terre promise, et l'ange tourne le dos au monde juif, à la catastrophe qui est symbolisée par un Christ crucifié.
L'ange rouge, on le retrouvera dans À ma femme, en lien avec le poisson et le violon, et on le retrouve surtout dans ce tableau magnifique et très poignant qu'est La chute de l'ange, qui est une sorte de journal de la montée de l'antisémitisme, à partir de 23 jusque dans les années 40, qui montre bien aussi, c'est un message très important à mon sens à rappeler, que pour Chagall, la Shoah n'est pas le drame du peuple juif, c'est le peuple de l'humanité tout entière. En intégrant le Christ dans les figures de la judéité avec le talit qu'il a autour de la taille, Il montre bien qu'il ne faut pas penser la Shoah comme un drame du peuple juif seulement, mais vraiment un drame de l'humanité. Voilà. Et l'ange est là dans ce récit. Ce sont des figures qu'il reprendra, je pense notamment à ce magnifique tableau qui fait partie du cycle du message biblique, les trois anges sur le banc, qui est vraiment parmi les plus belles œuvres de Chagall. Il y a toujours quand même ce message d'humanisme profond qu'il ne le quittera jamais de toute sa vie. À chaque fois que Chagall nous montre une image, tout converge sur cette idée d'un message d'humanisme et du rôle de l'artiste comme le trait d'union entre le divin, le surnaturel et le quotidien, le prosaïque. Qu'est-ce que l'artiste peut apporter à cette évolution de l'humanité? Comment est-ce qu'il devient un ambassadeur d'une force plus forte que ce que l'on croit? Et comment il peut aider à éviter l'irréparable?
En Amérique, il commence véritablement à travailler avec la musique. Sa première réalisation scénique, c'est le ballet Aleko, inspiré par le poème de Pouchkine. Ils choisissent le trio de Tchaïkovski, le noir des grands artistes. Il écoute des journées entières cette musique pour s'inspirer. Et là, son travail devient véritablement musical, à un sens beaucoup plus littéral. Dans ce ballet, il fait tout, il fait les costumes, il peint par-dessus des costumes, les rideaux des scènes. Il reproduit cette expérience qu'il a fait avec les panneaux du théâtre de l'art juif.
Un costume pour le ballet Aleko, qui a pris place à Mexico en 1942.
Ambre Gauthier.
Qui est un costume composé d'une gabardine de coton et qui intègre en fait un corps de poisson le long de la jambe du danseur. Et qui a la particularité d'être réalisé avec un vrai filet de pêche, donc qui montre comment Chagall réintègre des matériaux qu'il trouve dans la nature, des matériaux du quotidien, dans ses créations et dans son œuvre d'art. Donc toujours cette même implication de l'art dans la vie et la vie dans l'art.
Fort de cette expérience, Chagall se lance dans le travail avec le compositeur enfin, dominant de son temps, qui est Igor Stravinsky. Il participe donc dans la création de Oiseau de feu à New York. Enfin, il a la possibilité de travailler directement sur la musique du compositeur qu'il a accompagné toute sa vie, Mozart. Précisément dans la musique Mozart, son œuvre préférée, c'était la flûte enchantée. Ce côté en même temps enfantin, presque naïf et en même temps très sophistiqué et mystérieux, mystique qui est dans cet opéra, a parlé directement à Chagall. Il a fait une série de costumes pour ce ballet qui sont absolument incroyables.
On a le costume tout à fait exceptionnel de Papageno, composé de brocarts de soie, de plumes, qui représente l'oiseleur dans la flûte enchantée. C'est un costume tout à fait extraordinaire qui offre une multitude de textures, de plumes et une explosion de couleurs qui est tout à fait propre à Chagall.
C'est pour moi, quand j'ai entendu Mozart ou Bach, c'est comme Rembrandt, c'est incroyable. Vous savez qu'est-ce que c'est Mozart et Bach qui existent sur la terre? Surtout les garçons qui sont morts à 35 ans et personne n'est allé à son enterrement. C'est ça qui me touche énormément. Ou même que certaines choses de Stravinsky, même Schoenberg, des choses incroyables. Notre humanité sur cette planète a créé des choses formidables. Il faut être modeste.
Dans les années 60, Chagall réalise plusieurs œuvres monumentales. En 63, André Malraux le commande le nouveau plafond de l'opéra Garnier, qui est peut-être la culmination de tout le lien que Chagall avait avec la musique pendant sa vie. Chagall doit choisir directement le thème de ce plafond. Il choisit 14 compositeurs sur 14 panneaux, qui étaient pour lui ceux qui pensaient être un répertoire idéal pour un théâtre de l'opéra et du ballet. Donc ce compositeur, il les place dans les tableaux, ça va de Rameau à Stravinsky, en passant par Beethoven, par Wagner, par Mussorgsky, Tchaïkovski, Debussy, Ravel. Ce panneau, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'art total.
toute l'idée de Chagall pour le plafond de l'opéra, au-delà de la réalisation d'un panthéon musical et artistique personnel, c'est aussi également de s'approprier le cercle. Le cercle dans l'œuvre de Chagall, c'est un élément récurrent. C'est un symbole de renouveau, c'est une forme mouvante, c'est le début et la fin de tout. Et par le plafond de l'opéra, comme par de très nombreuses créations, dont certaines maquettes pour le théâtre d'art juif, on ressent toute l'importance et toute la vigueur de cette mise en mouvement de la couleur, du dessin, des formes.
Il n'y a pas de thème, vous savez. Est-ce qu'il y a des thèmes dans notre vie, dans notre existence? Dans ce mouvement planétaire, il y a toujours la vie. Ça tourne quelque chose et après ça devient un symbole, ça devient un thème si vous voulez. Mais moi, avant tout, je n'ai pas de thème. Je ne commence pas par des thèmes.
Mérette Mayer, à quoi ressemblait l'atelier de Chagall ?
L'atelier de Saint-Paul était immense. Il y avait un couloir avec des petits ateliers, un atelier consacré à la lithographie, un autre à la sculpture, à la gravure, et ce grand atelier qui avait des grandes baies vitrées devant lesquelles les vitraux des dernières années avaient été fixés pour qu'ils puissent travailler quand ils ne pouvaient plus partir à Reims. Sa vie était consacrée à son travail était consacré à sa vie. Donc c'était une plénitude. Moi, personnellement, ça m'avait toujours impressionnée.
Je me lève à 8h, avec atelier, je lis, je regarde, je frotte, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de système chez moi, vous savez. Non, non, non. Il faut travailler beaucoup, mais ça ne dit pas que vous avez un système.
Je suis venue en France avec encore de la terre sur les racines de mes souliers. C'est long pour que cette terre sèche et tombe. J'ai dû trouver autre chose. Je l'ai trouvée dans les paysages de France, les fleurs du Midi, les horizons de Peyrakava, la terre de Gordes ou du Roussillon, les rouges profonds du Mexique. Lorsque tous les souvenirs de Vitebsk se sont évaporés, c'est comme s'il m'avait fallu renaître, mais cela n'est possible qu'à celui qui a su garder ses racines. Garder la terre sur ses racines, c'est un véritable miracle.
Il y a un moment où on a l'impression que Chagall se dit « Bon voilà, finalement, la terre pour moi aujourd'hui, c'est la France. » Et il y a cette volonté d'inscrire son œuvre dans la terre de France. La céramique, c'est à la fois pour lui des œuvres et des œuvres du coup extrêmement fragiles. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il fait ses œuvres qui se briseraient facilement, un autre exil n'est plus possible. Et donc la céramique devient presque comme une sorte de bilan qui transcende évidemment la question des origines, mais qui l'inscrit de façon aiguë, forte, dans l'histoire de la modernité en France.
La céramique, pour Marc Chagall, c'est le lien avec la terre de ses origines, la nature, mais aussi un rapport presque charnel avec la matière. Donc la manière dont il modèle l'argile, à la fois comme une caresse, la manière dont il griffe les panses des vases, la manière dont il fait vraiment corps avec son sujet. Donc nous avons plusieurs vases, le paysan au puits ou encore le songe, que l'artiste a modelé, puis qu'il a vraiment retravaillé, donc à la fois avec le pinceau, avec des couleurs, du bleu, du jaune, beaucoup de vert également, et en même temps un vrai travail à la plume qui consiste à retravailler la matière sur toute sa surface et qui lui permet de griffer, de refaçonner encore son esthétique. Et également, comme sur le songe, un jeu entre la matité et la brillance, un jeu qu'on retrouve également dans toutes ses toiles.
Quand on regarde par exemple les œuvres de la fin, il est évident qu'il a été marqué par le séjour à New York des années 40 et qu'il a été marqué par la bad painting. Et quand on voit des œuvres comme le Nu Mauve, il y a quelque chose de Kooning dans cette peinture. Ce qui est sans doute une comparaison qu'on n'attend pas. J'ai l'impression qu'il y a une amabilité chez Chagall. C'est pas le cas. Même un tableau comme Les gens du voyage, qui apparaît comme ça, dans un premier abord, un tableau assez aimable. Toute la partie basse avec les coulures de peinture qui crée comme des racines en dessous de cette scène de cirque, quelque chose de fascinant. Et ça, ils le partagent avec Picasso. Ils ont tous les deux compris dans les années 60-70 ce basculement et cette importance de la bad painting, c'est-à-dire faire attention à pas faire joli, justement. Il y a chez lui, dans ces années-là, quelque chose qui est un peu comparable au Picasso qui choque quand il le présente à Avignon en 73. Je suis émerveillé, moi, de voir que des gens comme ça, qui peuvent s'installer dans la célébrité, se renouvellent tout en restant cohérents. C'est-à-dire, l'idée n'est pas non plus de courir après la modernité. C'est juste que ce sont des gens qui ont quand même conscience d'avoir été dans le plus beau bouquet de la modernité et qui se doivent de rester dans la course.
Le cirque rouge est une huile sur toile que Chagall peint en 1956-1960. Le sujet principal du tableau est un bouquet. En fait, dans l'œuvre de Chagall, le bouquet est bien souvent un autoportrait. Le fait de se représenter en bouquet, c'est encore une fois pour l'artiste une manière de retisser des liens avec cet élément naturel, donc qui est présent par une iconographie dans ces tableaux, mais également par des inclusions de végétaux, des inclusions de pierres, de minéraux. C'est la recomposition d'un être vivant au sein du tableau.
Est-ce que vous comprenez ce que votre grand-père a dit ? La fin de la vie, c'est un bouquet.
Le bouquet, il n'est jamais une fin en soi, mais le bouquet, si il doit vraiment y avoir un message final qui soit bienveillant et accueillant, le bouquet doit être là comme le dernier message de bonheur.
Est-ce que vous étiez à l'enterrement de Marc Chagall ?
Oui, bien entendu, qu'on était à l'enterrement de notre grand-père à Saint-Paul-de-Vence, qui était noir de monde.
C'est un bel endroit, Saint-Paul-de-Vence, pour Marc Chagall ?
Le lieu d'enterrement a été fortement critiqué. En Israël, de nombreuses voix se sont élevées en disant que c'était une honte, qu'il n'y avait pas l'étoile de David sur sa tombe. Il y a l'ange du message biblique qui est gravé sur la pierre tombale, ce qui lui aurait énormément plu. Il est certainement très serein là où il est.
Et c'est vrai que si l'on évoque le statut d'étranger, de Chagall était-il russe, Chagall était-il français, en fait, il le dira plus tard, il dira « Mes patries sont peut-être seulement sur mes toiles. »
Je suis français, je suis né en Russie. Peut-être un jour j'aimerais dans ma ville natale, Vitebsk, peut-être j'aimerais que s'il y aura un musée là-bas, qu'il y aura un tableau, deux ou trois, quelque chose de moi, un peu. Qui, ma maison, il paraît que ça existe encore. Ça existe, un morceau. On m'a envoyé une photo. J'aimerais ça, peut-être. Ça, c'est une petite faiblesse. Mais je ne vais pas dire ça. Là, je ne vais pas.
Marc Chagall, L'Ange Saltimbanque, avec Ambre Gauthier, Mérette Mayer, Bruno Godichon, Nathalie Azan-Brunet, Claire Le Foll et Miraël Roudy. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Mixage, Claire Levasseur. Une émission de Christine Le Cerf et Christine Digère.
Marc Chagall, L'Ange Saltimbanque. Christine Le Cerf, Christine Digère. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Pour continuer, références, bibliographies, podcasts, réécoutes et commentaires sur la page de l'émission, bien entendu sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, nous serons avec le philosophe qui a étranglé sa femme, Louis Althusser. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.